Le premier rendez-vous du cabinet des lecteurs, Peuple et Culture Marseille, deuxième partie. Il y a en chacun de nous un autre monde. La chose la plus importante est toujours celle que l'on ne connaît pas. Un autre monde raconte l'histoire de Harrison William Shepherd, un personnage inoubliable dont la recherche d'identité plonge le lecteur au cœur des événements les plus tumultueux du XXe siècle. Barbara Kingsolver nous entraîne dans un voyage épique de la ville de Mexico des années 30, où le lecteur rencontre Frida Kahlo, Diego Rivera et Trotsky, leader politique en exil, avec des personnages profondément attachants, souvent émouvants, un vrai sens de la description des lieux et une analyse juste et intelligente de la façon dont les événements historiques et l'opinion publique peuvent façonner une vie. L'auteur a créé un bouleversant portrait d'artiste et s'interroge sur l'essence même de l'art.
Mais je crois que c'est un des romans qui m'a le plus... touché, c'est pas le mot, mais qui m'a le plus, en tout cas le plus enthousiasmé dans les derniers mois. Ça s'appelle Un autre monde de Barbara Kingsolver. C'est une auteure américaine que vous connaissez peut-être parce qu'elle a déjà beaucoup publié chez Rivage. C'est elle qui avait écrit bien sûr, ça m'échappe, Les cochons au paradis, Des yeux dans les arbres, enfin bref, elle a tout un... pas mal de romans à son actif. C'est une femme qui a une soixantaine d'années, peut-être un peu moins, peut-être 50, 55, peut-être 55 ans, qui vit aux États-Unis, et elle a mis 9 ans à écrire ce roman. Donc depuis 9 ans, elle avait quasiment rien écrit. C'est un roman qui est extrêmement documenté, notamment sur l'histoire du Mexique. Et elle a choisi comme personnage un homme, enfin un jeune homme, un enfant d'abord, qu'on va suivre pendant toute une partie de sa vie, jusqu'à ce qu'il devienne un homme, grand auteur de romans à succès aux États-Unis. Et en fait, c'est un roman qui est divisé en plusieurs parties, puisque c'est écrit sous forme de journaux, de différents journaux de cet homme, donc. On m'échappe là à l'instant même, évidemment. Bon, je le retrouverai, il n'est pas là, mais je le retrouverai. Et donc, on a quatre de ces journaux qui sont assemblés par celle qui sera sa secrétaire dans toute sa partie américaine de vie, une certaine Violet Brown, qui est un personnage, un petit bijou de personnage shakespearien, enfin, complètement incroyable. Et donc on a voilà, l'histoire de ce personnage à travers ses journaux, toute son enfance au Mexique. En fait, il est né de père américain et de mère mexicaine, une mère complètement fantasque, incroyable, toujours à la recherche d'un homme qui a un peu plus d'argent et qui pourrait l'entretenir, elle et son fils. Enfin, c'est un personnage comme ça, haut en couleur. Et ça se... Donc, toute cette première enfance, enfin, toute cette première partie d'enfance au Mexique est assez mouvementée, assez colorée. Il y a vraiment ce côté du Mexique coloré, chaleureux, avec les marchés bruyants, avec, enfin voilà, vraiment cette chose du Mexique populaire, parce qu'ils sont vraiment sur une couche assez populaire. Et ce jeune homme, enfin ce jeune garçon qui évolue là-dedans, qui voit sa mère et ses amants et qui comprend tout à fait ce qui se passe, hein, mais voilà, qui évolue là-dedans. Et ce jeune homme va grandir et va, un peu par le hasard des choses, prendre parti à l'histoire, notamment de son pays, puisqu'il va entrer au service, en tant que cuisinier, au service de Frida Kahlo et Diego Rivera. Alors, bien, tout ce qu'on lit, en fait, ce qui est super dans ce roman, c'est qu'on est tout le temps à la frontière entre la réalité et la fiction. C'est-à-dire que 99% de ce qu'on lit sont des faits qui ont existé, mais le personnage, évidemment, est un personnage de fiction. Et qui vient s'insérer au milieu de cette histoire, de cette grande histoire.
Et c'est son journal intime.
Et c'est son journal intime qu'on lit. Mais on rentre chez les Kahlo Rivera, on rentre dans la Maison Bleue et on rencontre ces personnages de façon intime. C'est très très drôle et en même temps hyper, hyper intéressant parce qu'on apprend en effet beaucoup beaucoup de choses. C'est aussi toute la période où Diego Rivera est le grand peintre du communisme, où il crée ses grandes fresques à la gloire du peuple, etc. Et c'est le moment où le Mexique entre suffisamment en communisme pour accueillir Trotsky en exil. Et donc, il arrive chez le couple Calo Rivera, qui l'héberge, et le narrateur devient le secrétaire de Trotsky.
D'accord.
Et du coup, se noue évidemment toute une dimension politique et de ce grand personnage, de sa persécution par Staline. Trotsky se fait donc assassiner. Mmh. Et juste avant la Seconde Guerre mondiale, Frida Kahlo se débrouille pour que donc, Shepard, c'est ça son nom, puisse repartir aux États-Unis, vu qu'il a la double nationalité. Elle l'envoie pour emmener ses toiles pour une grande expo à New York. Pour qu'il puisse un peu, parce qu'elle sent qu'il y a un moment, voilà, qu'il y a un moment, le vent tourne. Et donc, la deuxième partie du roman se passe aux États-Unis. Avec ce jeune homme qui fait, voilà, qui fait un peu, qui est homosexuel de surcroît, qui fait un peu ses armes dans ce monde-là et qui se met à l'écriture. Et qui devient donc ce grand auteur à succès pendant la Seconde Guerre mondiale et l'immédiate après-guerre. Donc on a aussi toute la vision de l'Amérique pendant la Seconde Guerre mondiale, tous les rationnements, etc., l'envoi des troupes et la Seconde Guerre mondiale, avec bien sûr l'arrivée... Donc c'est vraiment un énorme pan d'histoire américaine et l'arrivée du macartisme et la chasse aux sorcières. Et là, tout son passé lui revient, parce que être secrétaire Trotsky, c'est pas rien, quoi. Même quand si c'est au Mexique et même si c'était pas du tout déclaré ou quoi que ce soit... Et bon, je vous raconte pas la suite, mais c'est un roman qui m'a vraiment énormément plu, justement par cette dimension-là, entre tout le temps entre la fiction et la réalité, parce que ça fait appel à plein de choses. C'est un roman qui est extrêmement documenté sur l'histoire du Mexique, et qu'en même temps on apprend des tonnes de choses, mais comme ça, sans en avoir l'air, quoi. C'est-à-dire que c'est un roman, tout ce qu'il y a de plus romanesque au sens d'une grande épopée où on nous raconte une histoire, et 700 pages. Honnêtement, moi, généralement, quand je reçois des bouquins qui font 700 pages, j'en ai des piles comme ça, et je me dis, bon, celui-là, non. Et celui-là, je me suis dit... Enfin, en fait, honnêtement, je connais la traductrice. Donc, c'est un peu facile de dire ça, mais je me suis dit, allez, je vais voir un peu ce que ça donne. Et je l'ai dévoré. C'est-à-dire que je me le suis avalé, mais je ne l'ai pas lâché, quoi. Et ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir... Un roman comme ça, qu'on... On est happé par l'histoire, on a envie de savoir ce qui va se passer, on prend du plaisir avec les personnages, on a envie de les retrouver, on a envie de les suivre. Et voilà, c'est vraiment chaque chose est agencée. Alors il y a des petites choses qui, moi, dans la période américaine, me plaisent un peu moins. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment les personnages sont des petites merveilles. La période mexicaine, c'est vraiment cette chose de couleur, de chaleur, on a envie d'y être, quoi. C'était vraiment cette chose-là, très très chouette. Et puis, on apprend une tonne de choses sur l'histoire du Mexique, mais aussi sur l'histoire des États-Unis, parce que, voilà, cette histoire, ce macartisme et cette chasse aux sorcières, c'est quand même un moment assez violent. Voilà, donc c'est le pavé... de cet été, mais c'est un petit moment, de bonheur. Enfin, moi, ça m'a fait prolonger l'été un peu.
Et du coup, ce que tu disais qu'elle avait mis 9 ans à l'écrire, c'est à cause du fait que ce soit très documenté, par rapport à d'autres livres qu'elle a écrits, parce que
complètement. C'est une drôle d'auteur, parce que c'est... Il y a ce côté auteur facile, publié chez Rivage, il y a un côté... On se dit que c'est pas forcément une auteure très exigeante côté américain comme ça, et en fait c'est une écriture qui est tout le temps extrêmement soignée. Avec celui-là, elle a eu le Orange Prize cette année à Londres. Elle était avec qui est-ce qu'il y avait, Alison Leary, et le jury a dit, le président du jury a dit, c'est terrible, c'est comme d'avoir 3 filles et qu'on nous demande laquelle est la plus belle. Et il faut choisir, et c'est vrai que c'était les 3 romans, je sais plus qui était le troisième, mais les 3 romans étaient des très beaux romans. Et malgré, parce qu'elle est américaine, etc., c'est ça qui me fait me dire, ça fait un peu roman facile. Et en fait, c'est une très très belle écriture. Moi, j'ai été assez saisie par la traduction aussi, par l'exactitude de la traduction. Et en effet, c'est extrêmement, extrêmement documenté, extrêmement nourri. Enfin, on apprend. Depuis, j'ai lu le Leonardo Padura qui s'appelle L'homme qui aimait les chiens, justement sur l'exil de Trotsky. Et j'ai envie de dire qu'il y avait. Enfin, il y a une grosse partie du roman que je connaissais. Je connaissais, alors que c'est pas du tout le sujet principal, mais je connaissais une grande partie de la vie de Trotsky simplement par ce roman-là.
C'est-à-dire qu'il est bien, il est riche. Quoi.
Voilà, il est très très riche. Et en même temps, alors que le Padura m'a fait ça, le Padura, je me suis dit, bon, ok, c'est très bien écrit, mais toute la partie sur l'exil de Trotsky, c'est vraiment, on est en train de lire un cours d'histoire. Et les détails à n'en plus finir sur son passage en Finlande, son passage en Suède, son passage... J'avais pas envie, vraiment. Alors que celui-là, c'est peut-être parce que j'avais lu celui-là avant et que du coup j'avais moins de surprises. Mais celui-là, j'ai vraiment lu tout. Enfin, ça m'a passionné alors que c'était des aspects historiques que je connaissais mal ou pas du tout. Et ça m'a vraiment même toute la partie mexicaine avec les subtilités sur les Aztèques, les Mayas, les Incas, ce qu'on retrouve chez les uns, enfin. C'est donc voilà, c'est très riche, extrêmement bien documenté.
C'est que l'histoire de Trotsky soit noyée malgré tout au sein d'autres choses, tu vois, là, alors que dans le Padura, peut-être oui. Que c'est, enfin, je l'ai pas lu celui-ci, j'en ai eu d'autres, mais tu vois, le fait que des fois ça soit noyé dans autre chose, oui. Ça donne pas la même sensation.
Et en fait, je crois que la différence entre le Padura et celui-là, c'est que là, c'est vraiment la fiction qui prime, c'est-à-dire qu'on est clairement dans on est dans la fiction. On est vraiment dans l'histoire de ce Harrison Shepard et de sa vie.
Qui est un personnage
de fiction, complètement inventé toute pièce, créé toute pièce. Alors que chez Padura, donc l'homme qui aimait les chiens, le roman se divise en trois parties. En fait, on a un systématisme oui, de la vie, enfin, 50 pages sur l'exil de Trotsky. 20 pages sur, la vie de Ramón Mercader, qui est son assassin, et 12 pages sur l'histoire du narrateur et le pourquoi il raconte cette histoire-là, ce qui l'amène à raconter ça et comment est-ce qu'il connaît cette histoire. Et on recommence sur 50 Trotsky, 20 Mercader et 12 narrateurs. Et il y a vraiment, enfin, la partie fictionnelle, et même si bien sûr tout a été romancé, on n'est pas uniquement dans la biographie pure et dure, on est vraiment dans un roman. Je trouve que la partie historique est réelle et ça se lit comme un essai, enfin pas comme un essai, ça se lit comme un document plus que comme un roman. Et moi je me régalais avec la partie du narrateur, alors que le reste, bon, un peu moins. Et c'est vrai qu'en effet, là, c'est inversé au niveau des proportions. Et je crois que c'est ça qui m'a le plus plu.
T'en avais lu beaucoup déjà de livres ?
Non, j'en avais lu un autre. J'en avais lu un autre qui m'avait plu, mais qui m'avait... Enfin voilà, j'avais trouvé ça chouette, que ça se lisait bien, mais j'en ai pas gardé un souvenir impérissable. Celui-ci m'a marqué.
Moi j'aime bien les romanciers pour aborder l'histoire. Philippe Prof, ça me fait penser à Philippe Prof en fait. Voilà ce que tu me dis. Et j'ai toujours, lui pour aborder l'Amérique, le macartisme et tout, j'ai adoré lire ça. Alors j'ai fait de l'histoire et ça m'a toujours gonflé les livres d'histoire en fait. C'est que je lis. Mais par contre, pour aborder une époque, pour la sentir, la ressentir, y a rien de mieux qu'un bon auteur, un bon écrivain qui se documente en fait. Je trouve. C'est vrai.
Voilà. Ouais, on a complètement l'atmosphère, mais je suis d'accord sur
une époque aussi. J'imagine le Mexique à un temps donné.
Complètement.
Ouais. C'est vrai qu'un roman pour ça, c'est.
Alors, elle a bien été l'amante de Vera, de Trotsky.
Alors, qu'est-ce qu'elle en parle dans le roman?
Oui, bien sûr. Elle en parle. Mais ce qui est super beau aussi, c'est que. Enfin, elle parle aussi justement dans les Trotsky du petit-fils qui vient rejoindre son grand-père. Et le petit-fils, il est encore vivant. C'est un des rares de la famille Trotsky à avoir survécu. Et elle disait dans un article que justement, elle avait qu'elle avait reçu un courrier de ce petit-fils-là qui la remerciait d'avoir donné un regard nouveau sur son grand-père. Il y avait une chose comme ça assez touchante où finalement, on parle très très peu de politique, enfin, on n'est pas dans le communisme et dans le... Mais ça, voilà, c'est une période et c'est en effet la période avec Frida Kahlo et puis sa femme, Natalia, enfin, on découvre vraiment plein de choses Et c'est des personnages touchants et attachants.
Je cherche le titre en anglais, parce que du coup, j'ai envie de le lire en anglais.
Là.
Et voilà, c'est pas mal, hein, le titre en anglais.
Ouais, alors, il y a eu tout un... Enfin, en effet, comme je connais la traductrice, on a pu en parler beaucoup. Elle avait demandé à ce que ça s'appelle Lacuna.
Ouais.
Et ça a été refusé par Rivage. C'est l'éditeur qui a refusé la traduction. Et du coup, elle a proposé un autre monde, puisque c'est un rapport avec ce qui se passe, enfin, ce qui se dit dans le roman. Mais aux États-Unis, je crois qu'il a été très. Au Mexique, je crois qu'ils ont gardé la Lacuna. Alors qu'en fait, c'est un mot qui n'existe pas. Enfin, c'est un mot qui n'est pas traduisible. Vous parlez peut-être très bien espagnol, je sais pas, mais.
L'espagnol, pas très bien, non, mais l'anglais, un peu mieux.
Oui, mais en fait, c'est ce que m'expliquait donc la traductrice, c'est que, enfin, que ça veut dire énormément de choses. Il y a beaucoup de significations, et que c'est d'où le fait qu'elle voulait conserver le titre original, et ça a été refusé. En fait, notamment la partie manquante, en fait c'est ça, c'est une sorte de partie manquante, c'est la lacune, mais c'est aussi, y compris dans les journaux de Harrison Shepherd, il en manque un. Et c'est la lacuna, c'est la partie manquante. Dans toute sa partie de son enfance, il va tout le temps plonger et trouver une grotte sous l'eau. Il y a un moment où la mer s'efface, où la roche s'efface et où la mer remplit tout. Cette partie-là aussi, c'est la lacuna. C'est que des choses qui se disent comme ça en espagnol. Et comment, à partir du moment où l'éditeur français refuse ce titre, comment le traduire autrement, comment le traduire, comment réussir à trouver quel mot, quelle expression, trouver quelque chose qui englobe tout ça. Le petit cube bleu, c'est pour la petite femme. Les domestiques n'ont le droit de monter l'escalier que jusqu'à la cuisine, qui ne vaut pas le déplacement. Ces pièces au-dessus sont cédées comme une crypte depuis que la reine est partie. Bon débarras, dit Olunda. Aucune chance qu'elle revienne, je te le promets. Je mangerai un chien vivant si un jour elle réplique. Après avoir surpris le patron pantalon baissé comme d'habitude, mais cette fois-ci en train de sauter sa propre sœur, donc il parle de Frida Kahlo qui vient de partir pour la énième fois et de Rivera. Quel couple étrange. Pourquoi mari et femme vivraient-ils chacun dans sa maison, avec juste un petit pont entre eux, des tuyaux rouges en guide de rampe pour relier un toit à l'autre. On le voit depuis l'auberge de l'autre côté de la rue. Tante Tergat fonctionnaliste. C'est lui qui mange, mais la cuisine est de son côté à elle. Quand on réussit à préparer un plat, il faut le descendre par l'escalier qui ressemble à l'intérieur d'une oreille, se retrouver dehors aveuglé de soleil, puis traverser la cour de gravier et remonter dans l'autre oreille de ciment jusqu'à l'atelier où le patron est là, pantalon ceinturé au sommet de son énorme ventre rebondi, planté à attendre qu'on le nourrisse. Et maintenant, il dit qu'elle va revenir et il veut qu'on lui prépare des empanadas, des boudines et des enchiladas tapatias pour l'accueillir. Il n'a jamais mis ses deux pieds de géant dans cette cuisine minuscule, sinon il saurait. Autant essayer de faire des enchiladas dans des gousses de cacahuètes. Mélanger du plâtre, c'était plus facile, mais vivre avec mère, non. Il aura donc ses enchiladas. Parce qu'en fait, au tout départ, il commence comme plâtrier pour Diego Rivera. Et c'est parce qu'il cherche du travail qu'il arrive dans la maison et qu'il dit « J'ai été plâtrier, on m'appelait Petit Pain ». Parce qu'il donnait la recette au plâtrier en disant « Mais c'est facile, c'est comme de faire du pain, c'est comme de la pâte à pain, le plâtre avec... » Vous mélangez avec l'eau et ça fait comme de la pâte à pain.
Donc, c'est bien d'entendre, parce que du coup, c'est pas forcément ce qu'on imaginait par rapport à une grande histoire, par rapport à un roman comme ça, d'entendre...
En fait, ce qui est surprenant au niveau des différents... Là, c'est la partie où il est grand enfant, en fait, quand il rentre à leur service. Et en fait, toute l'écriture évolue.
Ouais.
En fonction de l'âge, parce qu'au début, on a vraiment on a le regard de l'enfant... On n'a pas le vocabulaire, mais presque de l'enfant. Et au fur et à mesure, en effet, il grandit en âge et
en maturité.
Et son écriture, voilà. Et le roman évolue aussi avec. Enfin, l'écriture évolue avec.
Et du coup, c'est vrai que d'entendre tout de suite, ça donne une autre image sur ce qu'on imaginait.
Quelque part en Afrique noire, les rebelles rôdent, pillent, violent. Un petit garçon dans une rue affirme qu'il est compteur de cadavres, un métier comme un autre. Seulement, il n'a plus de place dans son cahier pour continuer sa besogne. Quelque part dans la même ville, un ancien instituteur a perdu toute illusion. Il décide alors de prendre une arme, comme tant de ses compatriotes. Le garçon s'appelle Jerry, il échouera dans une colonne d'enfants soldats. L'homme s'appelle Antoine, il perdra tout. Son esclave d'amour, sa raison, son visage. Et il échouera dans un de ces camps à bâche bleue.
Oui, alors j'ai amené un livre qui est un livre d'une jeune auteure qui vit à Bruxelles, qui s'appelle Joëlle Sambi, qui est d'origine congolaise. Ça s'appelle Le Monde et Gueule de Chef. C'est un roman, c'est un premier roman. Voilà. Et c'est un auteur qu'on a découvert récemment et voilà, que peut-être on a des projets, peut-être de la rencontrer, de la faire venir. C'est un livre assez dur sur où quelque part en Afrique noire, il y a une guerre civile. Et c'est un livre qui parle un petit peu comment à travers deux personnages, mais qui finalement pourraient n'en former qu'un, comment l'homme pris dans une guerre civile perd tout et perd même une identité, devient presque une abstraction. C'est-à-dire que comme si l'homme n'avait qu'un seul destin dans ces guerres, il n'y avait plus d'individus, quoi. Elle a eu un prix d'ailleurs pour ce roman. Et en fait, ça parle aussi d'une guerre civile en Afrique, mais là, vraiment, il n'y a pas de situation donnée, plus que ça. Hein. Et ça raconte ça met en scène deux personnages qui tour à tour vont prendre la parole. Un enfant qui devient enfant soldat, qui compte les cadavres, comme ça démarre, on voit compter les cadavres. Et puis un ancien enseignant, professeur de quoi de.
Sciences
de sciences naturelles, qui a été son enseignant. On se rend compte au fur et à mesure de leur récit qu'il y a un lien entre eux. Donc on suit comme ça leur parcours. C'est vraiment un court moment qui n'est pas du tout... C'est assez étonnant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de situation géographique. On sait juste qu'on est en Afrique, qu'il y a la guerre civile. Ils sont pris comme ça. Ils nous donnent des éléments chacun sur leur passé. Hein, tous les deux sont donc un enfant seul et un homme seul qui se retrouve embrigadé comme soldat. Voilà, et c'est assez abstrait en même temps, hein, comme petit roman. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait pas de situation, etc., c'est un peu le chemin contraire. C'est-à-dire que là, d'histoires un peu personnelles, comme ça, de petites touches sur les questionnements d'un enfant qui... Le début, c'est vraiment... il commence où il dit des chiffres, 2, 3, 4, des chiffres et des morts, 162, 164, des morts par milliers, des morts et leurs âmes ballottées, broyées, bousculées, elles sont 10 000 d'un bout à l'autre de la terre, 10 000 entre ciel et terre, des âmes en perdition qui errent noyées en quête de justice. Dans ce monde gigotant, mon esprit se noie. Je m'appelle Jerry et j'ai 13 ans, peut-être un peu plus, je ne sais plus très bien, enfin. Je m'appelle Jerry, j'ai un métier et je pense avoir 13 ans. Mon travail, compteur de cadavres. Un peu comme Papa Diallo compte ses dollars. Dans mon cahier, je recense, inventorie, calcule, dénombre, mesure et compte. 162, 163, 164. Aujourd'hui, c'est 164. Ce qui est certain, c'est que 164, lui, ne passera pas l'entrée du paradis. Il est énorme, c'est un pachyderme, etc., etc. Donc ça démarre vraiment comme ça. On rentre dans un... Voilà, c'est pesant. Enfin, mais en même temps, c'est un livre qui est assez abstrait parce que il donne pas d'éléments. On a ces deux personnages qui vont raconter des petits bouts d'histoire. Lui, cet enfant, donc qui n'a plus sa mère. Les femmes sont absentes. Lui, a sa mère à qui il parle hein, par moment, mais qui n'est plus là. Le son ancien professeur.
Elle est morte. Hein,
ça voilà, c'est ça. Oui, elle est plus là. Je voulais
non,
dire.
C'est bien. Pardon.
Non, mais voilà, elle est plus là au sens.
Par contre, il a un ami imaginaire.
Elle est morte. Voilà, c'est-à-dire qu'il parle à des absents, mais ils sont seuls. Il y a cet homme qui était son ancien professeur qui parle d'une femme qui est morte également. Donc les femmes sont mortes, assassinées, violentées. Enfin, c'est assez sombre. Et il y a ces deux personnages comme ça, d'hommes, qui à la fin finissent par se confondre. C'est pour ça que je parle d'abstraction. C'est-à-dire que c'est un peu sur des identités. On ne sait plus, ça se termine ou c'est...
tout le monde.
Voilà, on ne sait plus qui c'est. Et l'idée est vraiment qu'il y ait cette perte d'identité, que tous les destins se rassemblent en, finalement en un seul modèle d'homme qui est pris dans cette tourmente de guerre civile, quoi. Et c'est assez étonnant parce que, en lisant les deux successivement, c'est presque là où on va vers quelqu'un qui prend son identité, qui devient une personne. Et là, on a le contraire. On est vraiment sur un petit livre qui parle de la perte d'identité et des hommes qui se perdent complètement dans cette guerre civile et dans en étant des instruments. Voilà, c'est un petit livre, un premier roman qui est assez, assez joli, enfin joli et dur, hein, parce que je dis joli, mais c'est un peu gentil, mais avec des formules assez, avec une écriture comme ça, assez imagée. C'est pas simple d'écrire, de rentrer comme ça dans le livre. Enfin, moi, j'ai toujours du mal. L'écriture d'un adulte qui prend la voix d'un enfant, je trouve que
voilà, parce que ça, fait assez bien.
On part là-dessus et c'est vrai que voilà, elle construit ces deux voix finalement qui finissent par se mélanger parce que l'adulte perdu dans cette guerre finalement. C'est assez étonnant de voir comment ces deux voix vont s'entremêler et finalement
perdre l'esprit en plus. Ouais. L'esprit devient fou, donc alors que l'enfant devient plus ou moins mature, enfin peut-être pas mature, mais aussi.
Il y a un peu confusion des âges et des
âges. Ouais, et puis de toute façon, la fin c'est clairement dit je suis Jerry, je suis Antoine, je pourrais être chacun, je pourrais être tout le monde. Voilà quoi.
On est un peu sur le contraire de c'est vraiment des petits romans comme ça qui sont plutôt abstraits et qui essaient de parler pas théoriser mais en tout cas de donner une vision comme ça un peu retirée de prise sur l'histoire en fait et de parler de l'être humain en fait perdu dans cette guerre civile qui essaie vraiment d'être sur des sens et d'un propos qui s'extrait du concret, peut-être d'une réalité dont elle a du mal aussi.
Une réalité qui est incompréhensible, en fait. C'est ça aussi, c'est qu'il y a vraiment cet état-là des choses qui est le chaos. Et que ça soit dans Elles sont des ou que ça soit dans... C'est toujours un être qui est perdu et qui... qui est soumis à un destin qui le dépasse, quoi, une situation qui le dépasse, une histoire qu'il ne comprend pas et dans laquelle il est obligé de prendre part, en fait. C'est ça aussi qui a ce chaos permanent. Ce gamin qui devient, dans Le Monde des Gueules de Chèvre, le gamin devient enfant soldat, mais ne s'en rend même pas compte, en fait. C'est quand il se retrouve avec les armes dans la main qu'il se demande ce qu'il fait, mais sinon il passe son temps à se poser la question de ce qu'il fait là, qui sont ces révolutionnaires, où est la révolution, comprend plus. C'est ça, cette sorte de... Ils sont désorientés. En fait, c'est ça. C'est bien dans celui-là, il y a vraiment une désorientation.
Ce côté abstrait vraiment.
C'est pour ça de la poésie. Hein.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a un côté très, très poétique dans son écriture à elle.
Mais du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'éléments auxquels se raccrocher, en fait, d'éléments narratifs proprement dit.
En même temps, celui-ci, on imagine bien à haute voix, de l'entendre.
Ouais. Mm-hmm.
Il est très parlé, en fait, puisque c'est deux personnes qui racontent comme ça, qui se parlent presque à elles-mêmes, on a l'impression. Du coup.
C'était la deuxième partie du premier rendez-vous du cabinet des lecteurs, des rendez-vous réguliers proposés par Peuple et Culture Marseille pour explorer et partager les plaisirs de lire, pour rencontrer auteurs et écritures et les donner à entendre. Avec des extraits et discussions autour des livres Un autre monde de Barbara Kingsolver et Le monde des gueules de chèvre de Joël Sambi.
La minoterie, c'est le... Je ne peux pas me tromper sur la date. Je crois que c'est le 14...
Oui, c'est ça.
14 mars. C'est donc un lundi soir. Chloé, qui s'occupe de la bibliothèque de théâtre contemporain, présentera aussi un livre. Et puis nous...
Le prochain cabinet des lecteurs se déroulera le 14 mars au théâtre de la Minoterie.
Bah, par exemple, nous, on pourrait par exemple emprunter ce livre.
Quand est-ce que vous me le rendez?
Voilà. Ou il y a une autre solution aussi, c'est qu'on le redépose à l'Histoire de l'œil, par exemple, comme... Qu'en penses-tu, Nadia, comme lieu, si on veut rendre le bouquin avant le 14, le déposer ici, oui, ça peut être une solution aussi. On aurait pu prêter un des deux aussi, voilà, et ça pourrait être Histoire de l'œil...
Si vous êtes dans le quartier,
le relais,
il n'y a aucun souci. Hein.